Bonjour à chacun.
Soyez les bienvenus.
Et merci André pour ce temps, merci pour le groupe de louanges. Merci aussi de nous avoir préparé à replonger dans cette semaine qui va venir. J'ai choisi mon thème ce matin dans le petit livre que délivre la lecture de la Bible. Jésus, pain de vie. Un pain de vie pour une nouvelle création. C'est le titre que j'ai donné à ma prédication. Un pain de vie pour une nouvelle création. J'ai voulu faire comme mon ami Abel. Merci Abel pour toutes ces formations que tu nous as données. Tu as été là derrière, tu as été formateur pour nous. Un pain de vie pour une nouvelle création. En résumé, de Jésus découle la sorte d'homme que Dieu veut que nous soyons. De Jésus découle la sorte d'homme que Dieu veut que nous soyons. La vie heureuse, oui, ça existe. La vie heureuse se trouve à s'exercer aux œuvres de Jésus qui nous a laissé en témoignage. Parce que ces œuvres révèlent en exemple ce que Dieu veut que nous suivions dans nos relations. C'est un résumé. La vie est un mouvement. Est-ce que vous l'aviez remarqué que la vie est un mouvement? Le souffle de Dieu met en mouvement, nous le voyons dans Genèse. Partout, la vie chamboule ce qui est figé. Nos enfants, on peut tous le témoigner, donnent une dynamique particulière à notre vie de couple. Les oiseaux dans une forêt abondante sont particulièrement bruyants. Dans le film « La planète bleue », on a des scènes où toute une multitude de prédateurs se jettent sur un banc de maquereaux. Tour à tour, bonite, thon, otarie, requin, orcoal, hein. C'est la vie, c'est un mouvement. En Jésus-Christ, ce mouvement, en ce qui concerne notre vie humaine, prend une couleur toute particulière. Et j'aimerais faire avec vous une lecture dans Jean, le chapitre 6, versets 41 à 51. Jean, chapitre 6, 41 à 51. Les Juifs murmuraient à son sujet, parlant de Jésus, parce qu'il avait dit « Moi, je suis le pain descendu du ciel ». Il disait « Celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, lui dont nous connaissons le Père et la Mère ? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, lui, a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Je propose de remettre ce temps dans la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est un puits d'enseignement pour nous, Père. Seigneur, nous sommes ici parce que nous voulons nous laisser réformer par ta parole. On ne veut pas rester comme ça, Seigneur. On veut changer d'année en année, Père. On veut progresser d'année en année, Père. On veut que, Seigneur, tu grandisses dans nos vies et que nous, on diminue, Père. Seigneur, alors peut-être qu'on ne s'attarde pas à la forme de ce que je vais dire ce matin, Père, mais qu'on puisse s'attarder à ta parole, Seigneur, à ton enseignement, Père. Seigneur, ouvre nos cœurs, Seigneur, remplis-moi de ton esprit aussi, Seigneur, pour viser ce que tu auras à viser pour moi, pour chacun de nous ce matin, Père. Seigneur, sois loué, béni, Père. Amen. Jésus parle ici un langage en direct, une métaphore. Jésus est le pain de vie. Ça en appelle à la curiosité, à la charade à résoudre. Il interpelle la foule. Que voulait-il dire à ses interlocuteurs? Et je vous propose de revenir au chapitre 6, verset 1er. Au verset de 1 à 15 de ce chapitre, nous trouvons le récit de la première multiplication des pains. Une foule suivait déjà Jésus et ses disciples. Le verset 10 nous dit que la foule se composait d'environ 5000 hommes, une belle foule, avec 5 pains d'orge et 2 poissons. Cette foule a été rassasiée. Au verset 12, à la vue de ce miracle, la foule reconnaît en Jésus le prophète qui doit venir dans le monde. Le verset 15, Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira. Jésus s'aperçoit que la foule veut l'enlever pour le faire roi. Parce que la foule a été nourrie, rassasiée, elle veut faire de Jésus son roi. C'est-à-dire le nommer comme décideur politique, lui donner les pleins pouvoirs sur elle. C'est bien dans ce sens que le diable tentera Jésus dans le désert. D'après certains commentateurs, et nous lisons ça dans Matthieu chapitre 4, versets 2 à 4. Jésus jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et c'est bien dans ce sens que le diable tentera Jésus dans le désert. On ne sort pas d'un jeûne de 40 jours en faisant un festin de pain. La mort est assurée. Jésus pouvait devenir roi et posséder toutes les nations en nourrissant la foule. Une tentation pour Jésus à raccourcir le projet initial vu avec Dieu le Père, celui de devenir roi d'un tout autre ordre. Devenir roi par la croix, en passant par la croix et en mourant pour ses sujets. On le voit ici, Jésus fait l'expérience de la faim dans le désert. Il est en mesure donc de comprendre la foule qui, après la première multiplication des pains, va le suivre simplement parce qu'elle a faim. Jésus sait que quand on a faim, les tentations deviennent plus grandes. Tentation à se servir n'importe où. D'où ça vient? Et Jésus le dira aux gens à Capernaum, à la foule qui l'a suivi jusqu'à Capernaum. En vérité, au verset 26, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ça en dit long sur le contexte économique de la Palestine du temps de Jésus, mais aussi sur le contexte politique, l'attente d'un meneur. Les gens, ceux qui ont suivi Jésus, en tout cas, ont faim. Et Jésus là s'arrête, il le voit. Alors il répond à ce besoin. Et Jésus nourrit la foule. Pourquoi Jésus nourrit la foule? On ne peut écouter si on a le ventre vide. À quoi bon d'un sauveur, d'une bonne nouvelle, s'il n'est pas capable de m'apporter le nécessaire pour manger, pour remplir mon ventre? Et la foule n'est pas bête, ça crie là à l'intérieur. Elle le suit parce qu'elle a faim. Elle veut manger. On a l'habitude, quand on parle de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre de Jésus, dans ce qu'il révèle du Père, de parler de sa mort, de parler de sa résurrection, de parler de sa naissance, son incarnation. Et on en oublie à regarder à son vécu, à ses choix de vie. 75% des textes de la Bible nous parlent du vécu de Jésus. La révélation que Dieu nous adresse en Jésus-Christ dans les évangiles est donc bien une révélation en actes. Jésus se révèle au travers de ses actes et au travers de ses paroles. Quand Jésus choisit de nourrir la foule, c'est une œuvre qu'il fait de la part de Dieu. C'est une œuvre que Dieu veut qu'il fasse. C'est un enseignement pour les disciples, mais aussi pour nous. Jésus ici révèle que Dieu prend en compte les besoins de ses gens. Il nous y invite aussi à y être sensibles. Annoncer le message de la bonne nouvelle. Dieu est venu parmi nous. Convertissez-vous. Changez de voie. Changez de forme en pensant à être transformé. C'est aussi témoigner que Jésus, c'est du concret. C'est qu'il y a un impact pour la foule. Elle est nourrie. Est-ce que nos paroles sont suivies d'actes qui les attestent ? Jean chapitre 14, verset 11. Croyez-moi, dit Jésus, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez au moins à cause de mes œuvres. Jésus est dans le Père. Et cette relation intime entre Jésus et le Père donne une couleur particulière à ses œuvres, à tel point que Jésus dira ici, croyez au moins à cause de mes œuvres. Dans ce contexte-là, où la foule est composée de nécessiteux, Jésus adapte son message. Pour la Samaritaine qui puisait de l'eau au puits, le message de Jésus était qu'il est cette source d'eau de vie, et que celui qui en boirait n'aurait plus jamais soif. Pour d'autres, Jésus est la lumière du monde. Pour d'autres encore, Jésus est la vérité. Ici, Jésus se présente comme le pain de vie, mais un pain de vie d'un tout autre ordre, bien plus important que le pain et l'eau que nous avons dans nos frigos, tellement nécessaires à notre survie. Jésus se préoccupe ici d'abord de répondre aux besoins qui préoccupent la foule de manger, pour ensuite porter son message. Travaillez, Jean 6, 27, 28, travaillez non point pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure jusqu'à la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Travaillez non point pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure jusqu'à la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car le Père, Dieu, l'a marqué de son sceau. Ils lui dirent donc, que ferons-nous pour travailler aux œuvres de Dieu ? La foule est partagée. Certains voient en Jésus le nouveau Moïse. Selon la prophétie de Deutéronome 18,15, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Dieu parla à Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. À la question que la foule pose à Jésus, que ferons-nous pour travailler aux œuvres de Dieu ? Jésus répondra, c'est ici l'œuvre de Dieu que vous voyez, que vous croyez. C'est ici l'œuvre de Dieu que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Alors ils lui dirent, quel miracle feras-tu donc ? Que nous le voyons et que nous croyons en toi. Quelle œuvre fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit. Il leur a donné à manger le pain du ciel. Et verset 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a point donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le pain du ciel. Moïse nous a donné. C'est ce que le peuple a dit à Jésus. Moïse nous a donné. Mais la foule a oublié pourquoi Dieu a nourri ses pères de la manne. Deutéronome 8,3. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'on vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Facile donc pour ces Juifs de faire le lien entre la manne, Moïse d'un côté, et puis Jésus et la multiplication des pains de l'autre. Et on voit ici Jésus s'inscrire dans la continuité du message de l'Ancien Testament. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Avec une première démarche, croire. Croire que Jésus est cet envoyé. Il y a ici donc un commencement. Croyons-nous que Jésus est l'envoyé de Dieu? Jean 14, 6, je m'excuse, j'ai beaucoup de références. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Croire. Si oui, alors, si nous croyons, écouter Christ, c'est se mettre en mouvement. C'est changer de voie. C'est rentrer dans ce chemin de la vérité. C'est intégrer la vérité dans nos vies, dans nos bouches, dans nos cœurs, dans nos relations les uns des autres. C'est déjà vivre une métamorphose et prendre dès lors du recul sur la façon à vivre notre présence à ce monde. À quoi peut s'attendre celui qui mange de ce pain ? Verset 50, chapitre 6, 50. Celui qui mange, qui en mange de ce pain, il ne mourra pas. 51. Celui qui en mange vivra pour toujours. 53. Vous aurez la vie en vous. Il y a une différence ce matin dans chacun de nous qui a accepté Christ. La vie de Christ est en nous. À la vie éternelle, ça, verset 54. Celui qui croit que Jésus est pain de vie a la vie éternelle. Et je le ramènerai de la mort à la vie au dernier jour. Verset 56. Jésus-Christ vit en moi et je suis en lui. C'est une réalité pour nous, pour ce camp la semaine prochaine. Celui qui croit que Jésus-Christ est pain de vie vivra pour toujours. Verset 58. En résumé, nous pouvons dire que celui ou celle qui croit que Jésus est pain de vie est venu de Dieu et qu'il est ce pain vivant du ciel, bénéficie d'effets immédiats. La vie est en lui. Il y a donc engendrement d'un mouvement. Et ça peut nous faire penser du coup aux paroles de Jésus à Nicodème. Il te faut naître de nouveau, un changement. Une relation née. Il vit en moi et je vis en lui. Jésus devient notre modèle. Avec une promesse, je le ramènerai de la mort à la vie. Au dernier jour. Frères et sœurs, la vie de Christ en nous est-elle en germe là, quelque part, en nous, dans l'attente que Jésus nous ramène de la mort à la vie au dernier jour? Ou peut-on s'attendre déjà à des implications dans nos vies? Le verset 56, « Il vit en moi et je vis en lui », est-ce du pipeau? C'est peut-être réservé à notre culte personnel. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire si ça n'opère pas une différence dans nos vies, dans notre vécu, dans nos relations? Vous allez peut-être me trouver gonflé à dire cela. Mais moi, personnellement, quand je me suis approché de Christ, ou quand Christ s'est révélé à moi, j'avais qu'une seule espérance, c'est de changer de vie. J'aimais pas ma vie, je n'aimais pas qui j'étais. J'ai mis du temps à sortir de mes anciens comportements, à me laisser transformer, de passer en forme, et certains pourraient le témoigner, ça a été long. Il a fallu que j'intègre des réalités, mais une transformation s'opère, et ce n'est pas fini encore, je vous l'assure. Peut-on s'attendre à trouver des différences dans nos comportements de choix, nos relations particulières? Peut-on s'attendre à des règles de vie entre chrétiens? Mais aussi dans nos relations d'église, à des règles de vie qui ne se passent pas dans le monde. Y a-t-il dans l'église des particularités qui transcendent nos relations et qui expriment la réalité que Christ est pain de vie? Je le répète, y a-t-il dans l'église, dans nos cœurs, des particularités qui transcendent nos relations et qui expriment la réalité que Christ est pain de vie? Et qui, bien sûr, fait différence avec ce qui se passe dans le monde, puisqu'ils n'ont pas accepté Christ et qu'ils n'habitent pas en eux. On pourrait être tenté de dire ou de répondre à cette question, oui, il y a nos temps de louange, notre présence au culte, nos activités. Non. Christ peint de vie, opère des changements en nous. Y a-t-il des réalités nouvelles dans nos relations et pas seulement dans nos activités particulières? Y a-t-il dans ce qu'on vit ensemble des éléments qu'on ne trouve pas dans le monde? Puis-je me sentir en sécurité au milieu de vous? Ce sont des gens, je pense que dans mon histoire, je me suis senti en sécurité par la haine que j'avais de mon père. Et puis cela me tient encore aujourd'hui. Est-ce que je peux me sentir en sécurité dans cette église? Intégrer? Me projeter sur du long terme dans nos relations? C'est ce que beaucoup de gens se posent à l'extérieur. Jésus, en disant « se nourrira de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », nous invite aussi à nous nourrir de ses paroles à lui, Jésus qu'il prononce dans les évangiles. Et les paroles de Jésus, je ne sais pas si vous avez remarqué, elles ne sont jamais très éloignées de ses actes. Nous avons dit plus haut que Jésus révèle Dieu au travers de ses paroles, mais aussi il révèle Dieu au travers de ses œuvres. Pourquoi? Je vous propose de relire le verset 57. Jésus y donne la clé. Comme le Père est vivant, m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Jésus vit de son Père, et nous sommes appelés à vivre de Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus est ce pain, cette nourriture qui vient alimenter nos vies. Cette nourriture a des répercussions sur ma relation avec Dieu, mais aussi des répercussions sur nos relations. L'apôtre Jean, chapitre 14 et au verset 10, nous donne un élément supplémentaire. Jésus, parlant à Philippe, lui dit « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père, demeurant en moi, fait ses œuvres. » Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de mes œuvres même. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je ferai et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père. C'est bien en outre le rôle du Saint-Esprit. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Il y a donc un premier pas à croire, puis une invitation à faire les œuvres que Jésus fait parce qu'il vit en nous. Jésus vivait par Dieu en faisant les œuvres de Dieu. De même, Jésus nous invite à vivre en nouveauté de vie, à faire les œuvres que lui-même faisait, à vivre les relations que Jésus vivait. En d'autres termes, Jésus nous demande de nous nourrir de ses paroles et de les laisser s'incarner dans nos comportements, prendre vie, prendre forme, les laisser s'incarner, qu'elles aient des implications dans nos relations, dans nos choix de vie. Les réformateurs au 15e et 16e siècle ont répondu aux oppositions, aux excès de l'Église catholique romaine sur les indulgences et autres, que la grâce s'obtenait par la foi seule. Et ils ont eu raison de le faire. Mais la foi seule ne résume pas l'enseignement de Jésus-Christ pour nous, de nous laisser transformer, c'est-à-dire de passer de forme en forme et de porter la vérité en nous, et de laisser nous transformer en un autre homme, une autre femme. Seigneur, moi, je veux changer, je ne veux plus ma vie que j'avais avant. Jésus, je veux aimer comme tu m'as aimé. Tu as tout fait pour me gagner, alors je veux gagner mon frère, même si ça me coûte, parce que Jésus dira une parabole qu'il faut réfléchir avant de s'engager avec Dieu. Ça coûte de s'engager avec Christ. En vérité, je vous le dis, celui qui croit fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. La Bible nous dit que c'est dans les petites choses que nous devons être fidèles. Mais aussi c'est à la hauteur de notre amour que nous aurons les uns pour les autres. Christ habite et motive nos vies. Ouais, Seigneur, on veut que tu habites et motives nos vies. Quand nous parlons des œuvres du Christ, nous pensons tout de suite à ses miracles et ça nous interpelle. Mais nous ne pouvons pas résumer l'œuvre de Christ à ses miracles. De même que Jésus s'est senti concerné par cette foule, puissions-nous nous laisser concerner, comme l'aveugle Bartimée aussi, le fils de Timée que Jésus considère au milieu de la foule, alors qu'il est rejeté de la société, témoignant que Christ est plein de vie comme Jésus. Que nous puissions nous battre comme ceux qui se battent contre l'alcool, la drogue, les comportements sexuels déréglés. Et vous pouvez en rajouter. Que nous puissions nous battre dans nos domaines qui paraissent tellement moins dégradants. Nos mauvais caractères. Refusons nos entêtements. Refusons de nous contenter de peu. Refusons notre isolement. Refusons de nous rentrer dedans. Refusons l'idée de la séparation tellement plus facile que l'unité. Refusons-le pour une seule et bonne raison, Jésus-Christ est plein de vie. Un jour, dans le cadre d'un petit groupe, un ami partageait que ça n'allait pas bien dans son travail, qu'il n'arrivait pas à prendre sa place et ça n'allait pas avec son chef. Alors car apparemment, son chef, d'après ce qu'il disait, était un gars qui était super. Puis il s'est trouvé que dans la conversation... Cet ami a réalisé que le problème venait de lui. Il ne savait pas rentrer en relation. Il rentrait dedans, dans son chef. Et puis j'ai eu le réflexe de lui dire, mais est-ce que tu as déjà demandé pardon à ton chef? Non, il n'avait pas demandé pardon à son chef. Est-ce que tu lui as dit que tu ne savais pas faire autrement que de rentrer dedans? Non, il ne l'avait jamais fait. Est-ce que tu lui as dit que tu étais chrétien et que tu avais envie de changer même là-dedans? Frères et sœurs, notre grand problème, ce n'est pas de ne pas savoir faire les œuvres de Christ, c'est-à-dire aimer comme lui a aimé. Notre grand problème, c'est de ne pas mettre en œuvre des plans d'opération qui pourraient permettre des changements dans nos caractères, en reconnaissant d'abord qu'il y a des choses à régler dans nos vies. Je suis comme ça et on doit m'accepter tel que je suis, non ? Non, Christ nous appelle à autre chose. Christ nous appelle à autre chose pour chacun d'entre nous. Témoigner l'œuvre de Christ dans nos vies, ce n'est pas de toujours faire juste, mais c'est aussi témoigner que l'on a raté, que l'on fera mieux la prochaine fois, parce qu'on aime Christ. C'est aussi pleurer, j'ai raté. Mais ce chemin passe par une reconnaissance de la faute. Ceux qui viennent du milieu de la relation d'aide, comme moi, et qui ont eu, comme moi, la nécessité de prendre un vis-à-vis, un référent, une sœur, un frère de confiance, on a eu à confesser des chutes et rechutes dans des domaines qu'on avait eu honte, la violence, la colère, le vol, la drogue, l'alcool, les dérèglements sexuels. Et puis on peut témoigner que ça nous a libérés de confesser. Ça nous a libérés de confesser. On est passé de la honte à la liberté. Mes frères et sœurs, si j'ai besoin de vous pour ces progrès, je reste aussi à votre disposition pour les vôtres et restons aussi à la disposition de chacun pour les progrès. Nous voulons être l'Église de Christ. Que chacun dans nos mains, nous puissions gagner en liberté. Et témoigner que Christ est plein de vie. On n'en est pas quitte à lire la parole de Dieu seulement. On n'en est pas quitte à lire la parole de Dieu seulement. Opère-t-elle ces transformations dans nos vies? Serait-ce une nouvelle création déjà? Ouais. J'aimerais voir avec vous maintenant comment l'apôtre Paul met en lien la vie de Christ en nous, Christ plein de vie en nous, et déjà cette nouvelle création. Éphésiens 2:10, nous sommes sa fabrication. Nous avons été en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance et pour que nous y marchions. 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes disparaissent et toutes choses deviennent nouvelles. Galates 6:15, en Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur. Mais seulement d'être une nouvelle création. Une nouvelle création se produit donc chaque fois que quelqu'un est en Christ. C'est Christ qui nous alimente, nous nourrit en vivant en nous par son esprit. L'apôtre Paul aux Éphésiens 4, 30, 5 à 2 fait ce reproche. N'attristez pas le Saint-Esprit dont Dieu vous a marqué comme d'un sceau pour le jour de la délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, injure, tout cela doit disparaître de chez vous, comme toute espèce de méchanceté. Soyez bons les uns les autres, ayez du cœur, pardonnez-vous mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Imitez Dieu puisque vous êtes des enfants qu'il aime. Vivez dans l'amour comme le Christ vous a aimé et s'est livré lui-même pour Dieu, pour nous, en offrande et victime, comme un parfum d'agréable odeur. Ici, l'apôtre Paul reprend les Éphésiens. Il ne voit pas chez eux de changement, mais bien au contraire, il voit de l'amertume, de l'irritation. Jésus n'est pas le pain de vie pour les Éphésiens ici, dans ce moment-là. Est-ce à dire que ça nous paraît impossible ? Est-ce à dire que ça nous paraît impossible ? Oui, on peut dire que c'est impossible. Ouais. Ici, il y a quelque chose d'impossible. Et c'est bien parce que ça nous est impossible que nous voulons dire, Seigneur, nous, on ne peut pas t'imiter. Seigneur, nous, on ne peut pas marcher sur ce chemin-là, mais on a besoin de toi. Seigneur, je compte sur toi là. Ouais. C'est bien ce qu'avait remarqué un certain garde en disant, jamais homme n'a parlé comme lui. Ouais. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Mais Seigneur, on veut reconnaître que nous, il y a trop de choses mauvaises dans nos vies. Hein. Mon orgueil, ma fierté. Seigneur, je veux ton soutien. Je veux aller voir mon frère. Je veux y aller. Je veux avoir de la délicatesse. Je veux avoir de l'amour pour mon frère. Un amour qui cherche à le gagner et qui refuse l'idée de la séparation. Je veux ta patience. Je veux ta persévérance. La vie en Christ est un mouvement où je retrouve le libre choix entre le bien et le mal. La vie en Christ est un mouvement où je retrouve le libre choix entre le bien et le mal. Et je peux vous garantir que pour certains qui viennent du milieu de la drogue ou autre, quand ils commencent à dire non, ils voient vraiment que c'est une délivrance. Ça devient une délivrance à dire non. Jésus est pain de vie pour nous. Jésus me place devant moi un espace de liberté. Où je peux, dans cet espace de liberté, m'essayer. Je vais faire des erreurs, mais je peux m'essayer. Je peux aller voir mon frère. Je peux rechuter. C'est pas grave, Seigneur, c'est toi que je vise. Autrefois, j'étais mon propre chef. Je veux désapprendre à fonctionner tout seul. Seigneur, j'ai trop fait de bêtises tout seul. Je veux désapprendre à fonctionner tout seul. Et je veux te laisser, Christ, transcender ma vie. Alors je m'entraîne à dire non. Et vous savez quoi? C'est bon de dire non quand on a toujours dit oui. Mon sale caractère, mon égoïsme, je le découvre que je deviens capable de changer. Et puis autour de moi, ils le voient, les enfants le voient. Si je rechute, ce n'est pas grave, je me relève. Je ferai mieux la prochaine fois. Dans cet apprentissage, Jésus m'invite à considérer mon prochain différemment. Autrement que quoi? Autrement que dans nos sociétés, hein, autrement que les critères acceptables. Jésus ne considère pas les critères du monde. Il ne regarde pas à l'apparence, il regarde à l'injustice et il agit. Jean chapitre 20, 25, 26. Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas. Bon, je ne suis pas dans le bon texte. On ne peut pas faire fonctionner donc une église, on ne peut pas faire fonctionner donc nos relations sur des critères d'organisation calqués sur ce qui se passe dans le monde. Non, il y a une autre réalité. Christ transcende nos réalités, nos relations. Jusqu'à présent, mon prochain était à la fois un étranger, le voleur de mon pain. Jésus m'invite à le considérer autrement. L'ennemi, le laisser pour compte du système économique, la veuve, les orphelins, les malades, le bénéficiaire, frères et sœurs, est-ce un message nouveau? Non. La vie de Christ en nous, Christ pain de vie, nous redonne la capacité, la possibilité de nous positionner. Nous retrouvons notre libre arbitre. Cette pratique qui annonce Christ incarné dans nos vies est à manifester en nous, mais aussi avec les gens de l'extérieur. Ils ont à voir que quelqu'un habite en nous. Frères et sœurs, encourageons-nous donc dans cette marche. C'est une marche qui n'est pas exempte d'erreur, non. On doit s'essayer. Mais elle a à reprendre son cap quand elle s'est laissée dévier de sa visée. Cette marche se fait en Église. Elle témoigne d'une couleur particulière. Notre marche en Église témoigne d'une couleur particulière qui doit se reconnaître entre toutes. La bonne odeur du Christ. Jésus-Christ nous met en marche. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Que ce soit aussi notre nourriture. J'aimerais vous lire un petit texte de Frédéric de Coninck dans son livre « Agir, travailler et militer ». Voici ce qu'il dit. Est-ce à dire qu'à notre tour, nous devons porter la parole de Dieu jusque dans notre manière d'agir? Est-ce à dire que notre témoignage est autant pratique que verbal? Assurément, oui. Il n'y a pas de différence entre le mode de présence de Jésus dans le monde et notre mode de présence. Il n'y a pas de différence entre le mode de présence de Jésus dans le monde et notre mode de présence. Comme le Père m'a envoyé, dit Jésus, à ses disciples après sa résurrection, moi je vous envoie. Il est évident que nous sommes une image de Dieu, je lis toujours Frédéric de Coninck, il est évident que nous sommes une image de Dieu beaucoup moins fidèle que ne l'était Jésus. Mais si nous nous prétendons ses témoins, il faut savoir que nous témoignons comme lui a témoigné, autant par nos paroles que par nos actes. Nous démentons peut-être nos actes, et bien souvent, nos paroles par nos actes, mais nos actes n'en sont pas moins éloquents. Nous voulons nous encourager chacun, parce qu'on a besoin de s'encourager pour cette marche. Encourager les encadrants de ce midi-camp pour la semaine prochaine. Laissons-nous remplir de l'amour de Christ, même si certains enfants ou adultes vont être difficiles. Seigneur, je veux le gagner à ta cause, Seigneur, par la patience que je vais lui manifester, par ton amour que je vais lui manifester. Seigneur, je veux l'aimer de ton amour. C'est un chemin étroit, nous dit la Bible, parce que des fois, notre ego en prend un coup. Mais c'est un chemin tellement libérateur pour chacun d'entre nous, que nous puissions nous encourager dans cette marche. Prions. Seigneur, merci parce que tu es venu chambouler nos vies, mais tu la transcendes aussi, Père. Seigneur, nous voulons te voir grandir. Moi, je ne veux pas en rester à l'idée que je resterai comme ça jusqu'à mes 80 ans, peut-être. Je veux grandir en toi. Je veux gagner en liberté, je veux gagner à te manifester au travers de mes comportements, au travers de mes choix, à manifester que tu es vivant en moi. Pardon déjà pour mes chutes et mes rechutes, Seigneur, mais je veux te gagner de la place dans ma vie. Que ce soit, Seigneur, un moteur pour chacun d'entre nous, te gagner de la place dans nos vies, Père. Seigneur, sois loué, béni, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, en Église, Seigneur, nous encourager. Il y a ici certains qui sont forts dans des domaines, d'autres plus faibles. Que dans nos domaines, nous puissions nous encourager, que nous puissions avoir l'humilité de dire « J'ai besoin de toi, frère. Là, c'est difficile dans mon histoire. J'ai du mal à avancer. » Que nous puissions nous encourager, Seigneur. Donne-nous de sortir de l'orgueil, de notre fierté, de nos années de conversion, Père. Non, on veut grandir en toi. Sois loué, béni, Seigneur. Amen.
Quel message à propos pour
nous conduire dans ce moment de célébration de la Sainte Cène. J'aimerais vous lire un texte qui raconte comment le Seigneur a instauré ce repas qu'il nous invite à prendre encore aujourd'hui, tiré de l'évangile de Luc. Lors venu, il se mit à table, Jésus, et les apôtres avec lui. Et il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe, rendit grâce et dit, « Prenez ceci et partagez-le entre vous. » Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Puis il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant, « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang qui est répandue pour vous. » Lorsque nous lisons ces textes, nous les lisons généralement toujours lorsque nous introduisons la Sainte Cène. Et puis nous portons souvent notre attention sur cette partie du texte qui dit « Ce pain, c'est mon corps. Cette coupe, c'est mon sang. » Et je crois que c'est vrai et qu'il nous faut prêter attention à cela et la prédication que nous venons d'avoir nous le rappelle. Mais il y a deux éléments dans ce texte qui m'ont frappé en le relisant. Jésus dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Jésus voulait manger la Pâque avec ses disciples. Judas ne l'avait pas encore trahi. Pierre ne l'avait pas encore trahi. Et Jésus le savait. Et pourtant, au vu du sacrifice qu'il allait offrir pour ses amis, il leur dit, « Je vous aime tellement que je veux partager ce repas avec vous ce matin. » Et le deuxième élément, c'est qu'il nous dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le règne de Dieu ou dans le royaume de Dieu. Et ici, c'est une promesse, une confiance extraordinaire que le Seigneur a, que malgré les difficultés, malgré la trahison de ses amis, le royaume de Dieu adviendra. Le règne de Dieu adviendra. Et c'est une promesse qu'il nous fait, qu'il célébrera à nouveau ce repas avec lui, dans son règne. Alors ce matin, je voudrais que chacun ici, sache que le Seigneur désire vivement que nous partagions ce repas avec lui ce matin. Même s'il y a des choses qui dans notre vie, peut-être nous retiennent, le Seigneur le sait. Oh bien sûr, ne le faisons pas avec une mascarade, ne le faisons pas même si nous sommes persuadés que ce n'est pas vrai, que nous ne voulons pas le croire, là, il n'y a pas d'obligation. Mais le Seigneur, lui, ce matin, dit « Je voudrais manger cette Pâque avec vous parce que moi, j'ai donné ma vie pour vous. Je suis le pain. C'est en mangeant ce pain, en me mangeant moi, que vous vivrez éternellement. C'est en le célébrant régulièrement et en portant vos yeux sur mon retour que vous serez remplis de mon espérance. C'est le cadeau que le Seigneur nous fait ce matin. » De pouvoir nous approcher de sa table et de partager avec lui cet amour qu'il a pour nous et qu'il l'a poussé à la croix, mais aussi poussé à la victoire, et c'est cette victoire que nous attendons. Que chacun donc ce matin se sente invité de la part du Seigneur à prendre ce pain et ce vin. Et je voudrais inviter Rebecca et Emmanuel à bien vouloir s'avancer et demander à l'un et à l'autre de prier en notre nom pour remercier le Seigneur et de distribuer le pain. Et le vin. Emmanuel, est-ce que tu viens prier pour le pain ?
Oui, merci Seigneur, parce que c'est un privilège de pouvoir partager ce repas ensemble, en nous souvenant de ce que tu as fait sur cette croix. Merci parce que, au travers de ces souffrances, tu as tout effacé, toutes mes fautes, toutes nos fautes, Seigneur. Et c'est vrai que nous voulons en être reconnaissants. Et nous voulons, jour après jour, Seigneur, nous souvenir que tu es le pain de vie, que tu es celui qui nous purifie, qui nous aide à aller de l'avant, Seigneur. Et vraiment, que tous ceux qui se posent encore des questions, ceux qui ne t'ont pas encore connu, Seigneur, puissent découvrir tout cet amour que tu as en réserve pour eux. Et Seigneur, merci pour... pour ce don si précieux que tu as fait à la croix. Amen.
Ton toit est merveilleux. Seigneur, ce matin, je suis émue d'être devant toi parce que tu m'as tout donné. Seigneur, merci parce que tu as tout donné à tous ceux qui t'ont accepté comme sauveur, Seigneur. Et le plus grand désir pour moi, c'est que tous le fassent. Et Seigneur, je te prie pour tous ceux qui n'ont pas compris encore que tu as tout fait pour eux. Et je te prie pour tous ces enfants que tu nous confies cette semaine, qu'ils te rencontrent comme leur sauveur, leur Seigneur. Merci. Et merci parce que tout en moi, tu as voulu changer aussi et tu veux encore changer tout en moi. Merci pour ta patience que tu as envers chacun d'entre nous. Encore changé, encore modelé, Seigneur, pardon, Pardon, je suis si imparfaite et pourtant tu m'aimes. Alors Seigneur, merci pour ce sang qui coule dans mes veines et qui me donne la vie éternelle. Sois loué Seigneur et je te remercie pour tous mes frères, pour toutes mes sœurs que tu me donnes Seigneur. Bénis, bénis cette assemblée Seigneur. Merci. Amen.
J'aimerais partager avec vous les annonces concernant nos activités de l'Église. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, il y a un camp cette semaine. Merci. C'est bien. La vérité sort de la bouche des enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. C'est ce qu'on a entendu ce matin, hein, ce que vous avez fait à ces plus petits. Où est André ? C'est pas gentil de me piquer mon verset. On veut prier pour continuer à prier pour ce camp. C'est pas un aboutissement hein, aujourd'hui. Vous avez bien compris. C'est un début, donc il faut continuer à prier pour ce camp cette semaine. Et dans le cadre de ce camp justement, on se retrouve jeudi. C'est jeudi, hein, c'est pas mercredi, c'est jeudi. Hein. Jeudi à 17h30 pour un temps de prière ici pour tout le monde. C'est important. Jeudi, heure inhabituelle, 17h30, mais ça vous laisse toute la soirée. Vous imaginez comme c'est bien. Donc c'est super avec toutes les personnes qui participent ici à ce camp. Quand on a fait lever tout à l'heure les personnes qui étaient engagées, ben, il en manquait beaucoup, hein, parce que 42, il n'y a pas 42 personnes.
Qui se lèvent pas.
Voilà, voilà. Voilà, tous les dons sont utilisés dans ce camp. Merci en tout cas à chacun, on veut vraiment prier pour vous. Moi j'aimerais vous laisser aussi un verset qui m'est spécialement cher personnellement. Je vais laisser Emmanuel et à Rebecca quand même, parce que c'est eux qui sont la petite cheville ouvrière, la grosse cheville ouvrière de ce camp. Et pour toute chose, c'est le verset du psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Ça c'est pour tous les jours. « Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et puis le verset 9, il est pour vous, mais vous le lirez, il est juste pour vous deux. Il vous parlera, plus spécialement à vous, mais c'est juste pour vous deux. Voilà, en tout cas, on veut être reconnaissant que ça puisse démarrer, on est sûr que ça se passera bien. Voilà, je vous invite en tout cas cette semaine aussi à penser à notre culte dimanche prochain. On n'a pas d'autres activités dans la semaine, c'est déjà pas mal, hein. Tout le temps passé à prier pour cette semaine, c'est important dans cette semaine. Hein. Donc pensez-y. Notre culte dimanche prochain. Et puis il y a un tas de petits points que j'aimerais partager avec vous aussi. C'est des naissances, d'abord deux naissances. Alors une naissance, au début, on va faire chronologiquement, au début de la semaine, une petite Alice qui est née chez Clarence. Vous vous souvenez de Clarence ? Ah ! Clarence qui a passé des années ici, donc pendant ses études de sage-femme. Et puis qui a mis au monde une petite Alice ce lundi. Alors on veut vraiment se réjouir. Et puis se réjouir avec Philippe et Nelly qui ont eu hier naissance de leur deuxième petit enfant aussi, Robin, au foyer de Mathias et de sa compagne. On veut aussi se réjouir et on veut vraiment prier Dieu pour que Dieu bénisse ses enfants et les garde. Il y a plein de nouvelles intéressantes, hein, de toutes sortes. Je vous annonce, enfin, vous le savez, mais je vous annonce et je vous réannonce le mariage de Sabrina et de Cyril. Qui sera célébré le premier jour du mois de septembre, c'est facile à se rappeler, vous êtes invités à venir participer, à venir les entourer à cette cérémonie qui aura lieu à Crossroads à 15h30, donc le samedi 1er septembre, le faire-part sera au fond. Et puis, depuis quelques semaines courtes, on a retrouvé Michael ici, qui a passé tout un temps en Belgique, et puis qui a trouvé un boulot. C'est super, il a fini ses études, il a trouvé un boulot juste à côté. C'est bien. Alors, Michael a trouvé un boulot juste à côté, c'est en Guadeloupe. Pardon ? Il avait trouvé à Ornay. Oui, mais c'était trop près, là. Non, c'était trop près. Ça va pas. Michael, c'est bien, c'est un bon choix. Alors, Michael, je vais te laisser quand même un verset qui est pour toi. Je pense qu'on voudrait aussi prier pour que là-bas tu puisses trouver une place, trouver ta place, et puis rencontrer des frères et sœurs, qui puissent aussi t'épanouir. C'était tout le message de ce matin, on va vraiment te le laisser. C'est aussi spécial hein, comme verset, parce que c'est chargé, hein. C'est une bénédiction qui a été donnée à Jacob. Je ne te lis pas le verset d'avant, tu liras chapitre 28 de la Genèse, verset 14. Tu liras, ça te fera peut-être peur, mais tu liras. Mais le verset 15, il est chouette et il est pour toi. Voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et puis, mystère, je te ramènerai dans ce territoire. Quel territoire ? Ça va le découvrir. En tout cas, que Dieu te bénisse dans ce chemin aussi qui est devant toi. Voilà, ça fait déjà beaucoup de choses. Moi, j'ai pas. Est-ce qu'il y a d'autres annonces qui seraient à partager ? Emmanuel. Ils jeûneront. J'ai entendu aussi, ils jeûneront. C'est bien. Voilà, je vous invite à vous lever. Pardon, il y a encore une annonce. Excusez-moi.
Juste une petite annonce. Il y a une commande en cours à la librairie. Si quelques personnes ont besoin de choses, qu'ils nous disent assez rapidement.
Merci. C'est important. Hein, la librairie fait des commandes, mais on n'en fait pas pour tout le monde. Si vous avez un besoin, vous le faites savoir à la librairie. Au pire, elle le note et puis ça passera dans la prochaine commande. Merci Pascal, merci aussi pour le travail qui est fait à la librairie. Alors je vous invite maintenant à vous lever. Et par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, je vous lirai quelques versets qu'on trouve dans ce chapitre 6 de Jean. D'abord, par rapport à ce qu'on a entendu au début du culte, au verset 63, on peut lire « C'est l'Esprit qui vivifie ». Mot à mot, c'est qui donne la vie, hein, qui met en action la vie. Et puis ce verset que Philippe nous a relu plusieurs fois, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et je crois que c'est la bénédiction que Dieu veut nous donner aujourd'hui, c'est que nous soyons pas rassasiés, non ? Parce qu'on peut jamais être rassasiés de la parole de Dieu. Mais c'est que Dieu nous donne amplement et nous donne complètement ce dont nous avons besoin. Et puis la fin du verset 58 que Philippe nous a lu aussi, et qui est vraiment cet engagement de bénédiction de Dieu, celui qui mange ce pain vivra éternellement. Que ce soit notre joie ce matin, ensemble, et pour les jours qui viennent. Amen. Amen. Bon dimanche à chacun et bonne semaine à tous.